Il est 7h, on est mardi, c'est très sombre ce matin avec ces averses. C'est le 29 septembre, il fait 18 degrés. Louis-André Jalbert, bon matin.
Salut.
Terminé Coupe Stanley?
Oui, c'est terminé.
As-tu écouté?
J'ai pas eu le temps de regarder hier, je te dirais. Là, j'ai ouvert la TV, il était à peu près à moitié de la période. Il y avait une grosse game de football aussi.
Ah,
donc,
OK.
Je pouvais pas, c'était un choix déchirant.
Ouais, ton cœur balancé entre les deux, là.
Donc, j'ai décidé d'aller me coucher au lieu de prendre une décision aussi okay. déchirante. Mais oui, le Lightning de Tampa Bay qui ont gagné, comme je l'avais prédit, ouais. là, un peu, là, ça fait deux, trois rondes, là, que je le dis, là. C'est sûr qu'il allait gagner.
2-0,
l'équipe,
ouais.
L'équipe était vraiment bien bâtie, des vétérans, des jeunes. Des skills, des gars qui ont quand même tête sur les épaules. Là. Donc, une belle performance de leur part en finale. On souligne quand même la présence des Stars de Dallas qui ont essayé tant bien que mal de contrôler la tempête, mais à un certain point, je pense que le Lightning de Tampa Bay, là, une fois qu'ils ont gagné leur première Coupe Stanley, cette équipe-là, parce qu'on se souvient dans le temps de Martin Saint-Louis, le Cavalier, ils avaient gagné, mais là, c'est vraiment l'équipe de Stamkos, de ouais. Hedman, de Vasilevski, Kucherov.
Mais qui est renouvelé complètement.
Exactement, tu sais. Et puis, moi, je crois là que c'est la première de plusieurs Coupes Stanley pour cette équipe-là.
Ah, okay.
Parce que, sincèrement, avec la façon que le directeur général Brisebois gère la masse salariale, son argent, les contrats, il y a des joueurs de talent exceptionnels, générationnels dans son équipe pour des années et des années à venir. Donc, on verra bien qu'est-ce qui va se passer pour la suite, là. Mais ça va être difficile de déloger le Lightning.
Puis la suite, bon, on verra. Est-ce que ce sera en décembre ou en janvier
pour
une reprise de saison?
Je te dirais que j'ai plus hâte, tu sais, au repêchage, qu'est-ce qui va se passer. Là, il y a des rumeurs, les Rangers qui ont obtenu le premier choix au total, qui devrait être Alexis Lafrenière. Eh bien là, il y a des rumeurs d'échange. Est-ce qu'on va aller chercher peut-être un Jack Eichel à Buffalo, qui est un centre? On se souvient, Alexis Lafrenière, c'est un ailier gauche. On
ouais.
a besoin de centre pour bâtir une équipe. Donc, il y a plein de choses qui se passent en ce moment. Le Canadien est en mouvement. On a la masse salariale. Bergevin, il ouais. le dit. On va dépenser cette masse salariale-là pour de vrai. Puis, je le crois cette année. Les années avant, je le savais qu'il n'allait pas le dépenser. Et c'était intelligent de sa part. Là, il y a vraiment une marge de manœuvre. Donc, ça va être très intéressant à suivre jusqu'au début de la saison, en janvier prochain.
Ouais, si ça change pas, bien entendu.
Effectivement.
Sur la note régionale, Louis-André, ce matin, on parle de la jeunesse qui répond présent à la Maison des jeunes à Gracefield.
Oui, le 22 septembre dernier avait lieu l'Assemblée générale annuelle de l'organisme Jeunesse sans frontières Vallée de la Gatineau à la Maison des jeunes de Gracefield. Comme la tradition le veut, l'organisation a tenu son annuel barbecue tout en respectant les mesures de distanciation sociale telle que demandée par le gouvernement. Ce fut une année remplie de succès pour les jeunes et pour les intervenants, alors qu'on a remarqué une hausse de la présence des jeunes de la municipalité en 2019. Mélissa Vachon, directrice de la Maison des jeunes de Gracefield, explique comment ils en sont parvenus.
Beaucoup quand même de roulement de personnel. Par contre, ce qui a ressorti de façon majeure, c'est la présence des jeunes. Je pense que c'est la force de Gracefield aussi. Le nombre de présences a augmenté de 20 % là, cette année. On parle de 1572 présences au courant de l'année. Plus de soirs d'ouverture, une trentaine de soirs de plus d'ouverture et un changement de clientèle. L'année passée, c'était plus les filles qui utilisaient la maison de jeunes. Cette année, c'est beaucoup plus les garçons.
Selon elle, l'augmentation de l'achalandage revient en grande partie à l'équipe d'intervenantes.
L'équipe fait un job de fou cette année. Beaucoup dans la diffusion de l'information. On était aussi beaucoup plus présents à l'école. On a un beau partenariat avec l'école secondaire, ce qui fait que les jeunes nous voient aussi. L'équipe travaille bien fort pour être vraiment présent puis répondre, dans le fond, aux activités qui sont demandées par les jeunes. La Maison de jeunes, c'est un milieu de vie où c'est fait par et pour les jeunes. Puis je pense que l'équipe l'a très bien compris et le fait très bien.
Les adolescents de 12 à 17 ans sont admissibles à la Maison de jeunes de Gracefield en tout temps, du lundi au jeudi, de 15h30 à 21h. Le souper est cuisiné par les jeunes, pour les jeunes aussi. En raison de la COVID-19, eh bien, toutes les activités se déroulent à l'extérieur. Il n'y a pas un parent qui va chialer là-dessus.
Gaëtan. Non, du tout. Bluesy, qui, pour sa part, modifie le projet de construction d'un bâtiment pour la sécurité publique.
Oui, un appel d'offres avait été lancé par les élus de Bluesy pour la construction d'un bâtiment qui pourrait accueillir un camion d'incendie et l'équipement de la sécurité civile. La municipalité a été surprise par les offres qui étaient supérieures à 350 000 $, alors que le budget prévu était de 250 000 $, incluant la la construction et l'excavation. Le maire de Blue Sea, Laurent Fortin, mentionne que le projet a été modifié et que la municipalité a opté pour l'achat d'un complexe modulaire qui permettra d'entreposer l'équipement de la sécurité civile.
Un complexe modulaire, ça serait ça le bâtiment pour entreposer l'équipement de sécurité civile. Ça cadre dans notre budget. On a regardé pour le faire effectuer le bâtiment cette année. On a déjà contacté une compagnie de Québec qui fait ces modules-là. Puis c'est 95 000 plus taxes. On va aller de l'avant avec ce dossier-là.
Le complexe modulaire sera installé au même endroit que le bâtiment de la sécurité publique où la sécurité publique était prévue. Écoutons Laurent Fortin à ce sujet.
Il va être installé sur le chemin d'Arcy à côté du centre récréatif de Lac-Lon. C'est un terrain qu'on a acheté cette année pour pouvoir accueillir le bâtiment.
La municipalité a toujours l'intention de faire construire un garage pour le camion d'incendie et des démarches seront entreprises pour obtenir une autre subvention.
Et ces investissements, très bonne nouvelle, là, c'est près de 6 millions de dollars pour la gestion des eaux pluviales à Maniwaki.
Oui, on le rappelle, une conférence de presse se tenait hier avant midi pour annoncer des investissements majeurs des gouvernements fédéraux et provinciaux pour le projet de gestion des eaux pluviales du secteur King à Maniwaki. Le gouvernement fédéral investit plus de 2,7 millions de dollars dans le projet sous le volet infrastructure verte du plan Investir dans le Canada. Pour sa part, le gouvernement québécois investit également 2,7 millions de dollars provenant du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. La vallée de la Gatineau récolte donc une belle part de l'enveloppe totale de 15,8 millions de dollars dédiée à l'Outaouais pour la réalisation de travaux d'infrastructure d'eau. Voici les propos au député provincial du député provincial plutôt de la circonscription de Gatineau, Robert Bissière.
Le FIMO est un programme qui vient en aide aux municipalités là, par rapport aux aqueducs et aux égouts. On vise la construction de nouvelles infrastructures afin d'améliorer la gestion des eaux pluviales pour le King. Là. C'est sûr, c'est un besoin, ça devait se faire.
La ville de Maniwaki s'est dit très heureuse de pouvoir aller de l'avant avec ce projet d'envergure. Notons que la première phase du projet est évaluée à environ 7 millions de dollars.